on relève la sauce.
Un peu de sel, un peu de poivre. Et quelques épices. À la découverte de la vie associative. Mayonnaise.
Bonjour à vous, auditeurs, auditrices de l'autre radio, et bienvenue dans l'émission On relève la sauce, émission qui tente de décortiquer les recettes de la vie associative en Mayenne pour en découvrir les ingrédients. Au menu d'aujourd'hui, un éclairage sur la question de la mobilisation des bénévoles et un petit tour d'horizon de quelques appels à projets. Alors, passons tout de suite au plat de résistance avec un petit coup d'œil dans le rétro pour éclairer une problématique actuelle, un constat d'une difficulté de mobilisation des bénévoles dans le monde associatif. Et pour cela, je vous propose de redécouvrir ou de découvrir l'expertise de Steven Jourdan, programmateur d'un festival, du festival Un singe en été en Mayenne, qui revient sur la formation qu'il avait mise en place, intitulée « Comment animer une équipe de bénévoles ». Mobiliser, fidéliser, valoriser, en étaient pour lui les principaux ingrédients. Le plat est servi. Commençons donc par cette première question. Quelle est l'étape primordiale pour commencer à mobiliser des bénévoles ?
Clarifier son projet associatif, qui est quand même la chose, à mon sens, la plus primordiale quand on commence à vouloir mobiliser des bénévoles. C'est que, comme beaucoup d'associations démarrent en règle générale sur une bande de potes, des gens qui se connaissent déjà, qui ont envie de créer un projet, de mettre en place des choses, ça se passe bien. Ben, globalement, on est tous d'accord parce que le projet, on l'a créé ensemble, on l'a construit ensemble, et donc les premières années, ça se découle de ça. Donc, c'est, dans notre tête, c'est hyper clair. C'est qu'au bout d'un moment, par contre, il va falloir être amené à clarifier le projet là où il est maintenant et là où tu as envie de l'emmener, enfin où l'association a envie de l'emmener dans quelques temps, donc de l'écrire, de le poser et de le communiquer pour qu'il y ait des bénévoles qui puissent se mobiliser dessus en disant ah bah tiens, ça c'est un projet qui m'intéresse aussi et sur lequel je peux me projeter.
Le retraduire, c'est ça, c'est le recontextualiser, enfin comment est-ce qu'on fait justement pour éventuellement clarifier son projet?
Le meilleur moyen de clarifier un projet, c'est d'en discuter, enfin c'est du coup c'est de créer des temps de rencontre entre les bénévoles qui sont déjà présents dans la structure. D'accord. Et puis qui lancer un peu des pistes de déjà d'état des lieux de ce qui se passe, de ce qui est fait dans la structure, et puis après des envies de chacun, et après c'est le principe, c'est là, va être
de se projeter,
se projeter, de poser des jalons aussi, parce qu'on peut pas tout faire tout en même temps. On a toujours plein d'envies, hein, qu'on se retrouve de 5 à 10 dans un conseil d'administration à décider de qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans. Évidemment, il y a plein d'idées, il y a plein de choses. Après, faut réussir à le clarifier, à le cadrer, à l'écrire, et à partir de ce moment-là, après, ça peut être facilement communicable aussi par l'ensemble des membres de l'association. Mais c'est ça qui est le plus important aussi, c'est que chaque membre de l'asso doit pouvoir dire bah, moi, mon projet, le projet de l'association, c'est ça.
D'accord, donc déjà clarifier un petit peu son projet. Ça peut être assez chronophage, cette partie.
Cette partie-là, c'est ultra chronophage, parce qu'en plus, évidemment, on y revient quasiment tous les 2-3 ans. Enfin, c'est le genre de choses où c'est des projets triennaux ou ce genre de choses, par exemple. Et du coup, on y revient, on refait un point d'étape, un bilan de ce qui a été fait, et après, on se reprojette sur l'après.
Mais qui sert pas à rien.
Ah non, c'est le truc clairement qui sert tout le temps. En fait, peu de structures l'ont, ce projet-là, mine de rien, ou prennent le temps de le mettre en place, alors que ça reste quand même la base de ce qui va sous-tendre l'ensemble des bénévoles derrière. Et ce qui est le plus important, c'est qu'à partir du moment où il est écrit, ensuite on peut mettre en place une hiérarchisation.
Attention, grand terme là.
Ouais, ouais, c'est
voilà. Une priorité, des priorités.
Non, mais c'est même pas ça, c'est hiérarchisé. Il y a la hiérarchisation des priorités. Ça accumule plein de choses là, sur le projet. Mais non, mais après, je parlais plutôt vraiment de l'humain et des équipes bénévoles. C'est qu'on n'est pas obligé d'être dans le CA pour connaître le projet. Et donc, c'est toute la dimension des commissions au sein d'une association. Où là, en gros, on passe à la deuxième étape. Donc, dans l'organisation d'une asso, on va avoir le conseil d'administration qui est élu par l'Assemblée Générale. En son sein, il y a le bureau. Donc, ça, c'est un peu ce que tout le monde connaît. Et ensuite, dans beaucoup d'associations.
En tout cas, c'est la gouvernance qui est classique.
Voilà, exactement. La gouvernance classique qui fonctionne dans la plupart des cas. Beaucoup d'associations ont aussi des commissions. Alors qu'ils sont ou non issus d'un conseil d'administration avec un membre du conseil d'administration dans chaque commission, voire zéro membre du conseil d'administration dans une commission. Et ces commissions sont chargées d'une partie du projet de l'asso. Alors dans le cas de nous, par exemple, sur un festival, on va avoir des commissions qui vont s'occuper de la partie développement durable, la partie accessibilité, du bar, des toilettes sèches, de la communication, de la programmation, qui sont des bénévoles qui vont être amenés à travailler sur une petite partie du projet. Et alors c'est comment est-ce que tu fais pour mobiliser ces bénévoles-là et surtout pour les responsabiliser et leur permettre de prendre position dans cette commission-là? Si t'as pas de projet décrit et si on t'a pas dit à un moment le projet de l'association c'est d'aller là, en fait tu peux pas prendre de responsabilité au sein de ces commissions là parce que t'as toujours peur d'aller trop loin, pas assez, ainsi de suite.
C'est flou, je sais pas ce que je peux faire, etc. Répartir un peu aussi les différentes missions ou en tout cas axes du projet par le biais de commissions, ce qui peut permettre aussi à des bénévoles qui auraient pas envie d'être dans le conseil d'administration parce que ça fait peur, et aussi de se mobiliser sur quelque chose auquel c'est plus facile de m'engager pour une commission parce que je sais à peu près ce que ça veut dire, quoi.
Ouais.
C'est
ça. Oui, complètement. C'est que du coup, la plupart, les bénévoles vont s'investir dans un projet parce que le projet les botte, d'une part. Le projet c'est un festival de musique actuelle,
l'organisation d'un match de foot.
D'un match de foot, ça marche aussi. Un triathlon, ça fonctionne. Tout peut fonctionner à partir du moment où le projet de base t'intéresse. Après, la raison pour laquelle tu vas continuer à t'investir et à t'impliquer, c'est que tu vas y retrouver quelque chose aussi personnellement. Et ça, personne ne te le dit, que tu vas besoin d'avoir envie d'avoir quelque chose à en retirer. Ouais. Et ce truc-là, c'est ce truc de responsabilité, ça en fait partie. Le développement de compétences aussi, c'est important, ça en fait partie. Et du coup, quand t'es dans les petits groupes de commissions, si on va en revenir aux commissions, ça permet justement de développer ces envies-là et de les clarifier aussi pour toi qu'est-ce que tu as envie de développer. Le côté développement durable, par exemple, t'intéresse. Il est applicable en plus à quasiment toutes les associations et toutes les organisations. Ça t'intéresse, ça te botte, t'as envie d'y réfléchir, de mettre en place réellement dans le concret des choses. Et par contre, dans le cas d'un festival, la programmation, ça t'intéresse, mais bon, t'es loin de ça, c'est pas ton truc. Ou la com, pareil, ça t'intéresse moyen. Par contre, t'as envie de mettre ta petite pierre à l'édifice sur le développement durable uniquement. Du coup, tu vas dans cette commission-là. Et de fil en aiguille, tu peux arriver dans le CA, dans le bureau, et réfléchir au projet plus global. Mais là, ça veut dire que ça a bien fonctionné et qu'on t'a bien eu, donc c'est cool.
C'est ça. Mobiliser, fidéliser et valoriser.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on peut en retirer de ces différents termes ? Sur le mobiliser, qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça ?
Le mobiliser, c'est justement tout ce dont on vient de parler, en gros, ce projet, l'envie d'un bénévole, d'un humain et d'un gens pour venir s'investir sur un projet. Il vient de lui. Enfin, du coup, là, d'aller chercher quelqu'un, ça fonctionne. Un pote qui vient chercher un autre pote, c'est un peu le truc de mobilisation de base.
Ouais.
Mais en tant que bénévole d'une asso, aller chercher des gens pour venir s'investir, faut que le projet soit clair. Ça, c'est le
clarifier
truc.
Le projet pour pouvoir facilement le communiquer et puis dire voilà ce qu'on veut vraiment, donc est-ce que tu as envie de nous rejoindre,
c'est ça,
ou pas.
Et puis quels sont nos besoins aussi. Un projet, tu clarifies par rapport à tes envies et tes besoins. Et quand tes besoins sont clairs, du coup, tu peux aussi mobiliser des gens sur des besoins hyper clairs. J'ai besoin de quelqu'un qui sache bricoler et qui a envie de faire de la scénographie, par exemple. Ça fait partie aussi des trucs. Quand tu clarifies ce besoin-là, c'est déjà beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un qui tape à la porte. Non, moi, je sais faire et ça m'intéresse.
Ok, donc sur le côté, donc clarifier les envies et les besoins, sur l'aspect mobilisé. Le 2, sur le côté fidéliser, comment on fait pour aller dans le temps, en fait, fidéliser, c'est ça?
Alors ça, c'est la partie la plus compliquée, parce qu'elle est à la fois due à ce que l'association va mettre en place auprès de ses bénévoles, et puis bien évidemment au bénévole en lui-même qui va y retrouver ce que lui cherche. Donc on sait qu'on arrive dans une association et dans une structure par rapport à ce projet, on y reste parce que en 80% des cas, il y a des cas on y retire quelque chose. Alors il y a la partie lien social, on rencontre des gens avec qui on a des affinités, ça permet aussi de rester dans une structure et d'avoir envie d'y revenir régulièrement.
Phénomène de groupe, voilà. Comment est-ce qu'on arrive à créer une dynamique?
C'est
interne.
Ça.
Okay.
Donc ça, ce premier truc-là, c'est ce principe. En gros, comment créer un esprit d'équipe au sein de cette structure-là. Donc cet esprit d'équipe-là, il se crée avec plein de petits outils, des temps un peu informels de rencontres, qui ne sont pas des réunions pures et dures, mais vraiment des temps d'échange. On parle d'autre chose que du projet aussi. Enfin, du coup, ça crée du lien. Créer des outils de communication qui sont alors là d'autant plus en période Covid. Nous, par exemple, sur la structure, on utilise un outil qui s'appelle Slack. Il en existe d'autres, ça peut être fait avec WhatsApp ou ce genre de choses aussi. Ça permet aussi à un moment de pallier à la problématique du mail, qui est j'écris un mail et donc du coup il faut que le mail il soit hyper bien rédigé, hyper bien écrit, avec une introduction, un début, une fin, et qui va bloquer en fait sur l'échange informel et de la création d'un lien un peu plus important entre les bénévoles. Alors qu'un SMS, un truc, envoyer à un groupe, tout de suite, tu peux envoyer une blague, une photo, n'importe. Ça marche très très bien aussi. Donc ça, c'est créer son propre petit réseau social, en fait, en intérieur d'une asso. C'est quand même plutôt un outil intéressant à travailler, qui fonctionne avec des gens qui ont déjà un peu l'habitude d'utiliser les smartphones,
c'est ça, voilà,
tout ça.
Bon, voilà. Après, ça, c'est toute la limite du numérique, mais ça se travaille. Ouais. Et de toute façon, les confinements ont permis de s'apercevoir que, bah, de toute façon, ça devenait un petit peu important de s'y pencher là-dessus. Donc, sur cet axe de fidéliser, donc de créer du lien en interne pour, en fait, créer une dynamique de groupe, un réseau.
Ouais, c'est ça, tu crées un petit réseau, après tu as créé des temps de convivialité, qui est quand même un truc important aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le moment de l'événement, il n'y a pas que les réunions, il y a aussi des temps, on peut inventer ce qu'on veut, hein. Nous on fait des retours bénévoles avec des barbecues, on se faisait à une époque la galette, tu as des petits temps qui sont, venez là, on vous offre un truc, on vous offre juste du lien, on vous offre un moment...
Ce qui est la base première justement de l'association, d'un regroupement de personnes, donc du lien social. Donc comment est-ce qu'on n'est pas que sur du projet réunion institutionnelle et choses comme ça.
C'est ça, complètement.
Ok, donc prendre le temps de la convivialité, prendre le temps du lien. Est-ce qu'il y avait d'autres aspects autour de la fidélisation, entre guillemets
Et alors, ça rejoint justement le troisième aspect pour
quelle transition sur valoriser.
T'as vu un peu sur la valorisation. Okay. C'est qu'en valorisant, tu fidélises aussi, et qu'à un moment ou à un autre, la troisième raison, on va dire, après le projet et après le lien social pour lequel un bénévole va vouloir rester, se mobiliser et s'investir un petit peu plus, c'est justement cette partie compétence où tu as deux volets à la compétence, tu as à la fois celle que tu vas en retirer, tu vas retirer des compétences particulières dans un milieu,
tu vas apprendre quelque chose,
chose, mais tu peux aussi donner des compétences. Mmh. Et dans toutes les associations, on a les deux cas de figure entre des anciens qui ont envie de donner de leurs compétences et de leur expérience et des plus nouveaux qui veulent apprendre des choses aussi. Et ça, c'est valable sur plein de domaines, hein. Ça va être les compétences en termes d'animation de réunion, ça va être des compétences en termes de cuisine, en termes de bricolage, de peinture, toutes les compétences possibles et imaginables. À partir du moment où on va apprendre quelque chose, on va en retirer un bénéfice qui va être bien supérieur à celui auquel on s'attendait, pour le coup. Et ça, on a commencé à s'en rendre compte, nous, à l'asso, il y a 5-6 ans, on a renforcé toute cette partie-là, cette partie formation, cette partie valorisation des compétences, en disant à un moment ou à un autre, c'est important aussi que le bénévole il puisse avoir ses temps pour lui, qui sont des temps où tu vas apprendre des choses et comment tu arrives à le valoriser autrement.
Montrer que ce que son engagement aussi sert. Donc là, il y a l'aspect transmission. Toujours sur le côté, comment est-ce qu'on arrive à créer aussi ce lien social là-dessus. Donc comment est-ce qu'on fait rencontrer les gens, les faire échanger et puis montrer que chaque personne a aussi un savoir. On peut aussi apporter quelque chose.
Quelque chose de précis, ouais.
Derrière ce terme valoriser, on met un peu trop souvent le terme médaille. Lors de la galette, on va mettre en avant une personne
ça on fait pas, non.
Ouais.
ça on fait pas. Non, alors après, il y a tout simplement dire merci aussi. Enfin, c'est un truc qui est que sur ces temps un peu informels aussi, il y a toujours le petit discours du président, et de dire merci aussi bénévole. Enfin, tu t'investis, tu donnes ton temps gratuitement. Un merci, ça tue pas, et c'est quand même le truc de base qui est important. Après, il y a d'autres moyens de valoriser. Enfin, il y a toute cette partie de compétences qui est chouette. Il y a ce merci qui est quand même pas anodin. Ces temps de convivialité qui sont aussi des merci dans les faits. Il y a des choses plus pécuniaires aussi qui sont mine de rien valables. Il y a le compte d'engagement citoyen.
J'allais y venir pour savoir si c'était mis en place. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'explication, parce que c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années mais qui est très très peu connu en fait.
Ouais, ça existe, ça fait 3 ans peut-être, 3-4 ans.
4 ans, oui,
c'est pas si vieux. Mais le principe, c'est que depuis il y a eu aussi une refonte du compte personnel de formation. On revient aussi à la formation pour le coup là, qui est là liée à l'emploi qu'une personne peut avoir dans sa vie de base, qui est anciennement le DIF, et qui permet de cumuler des heures et donc des sous pour aller faire une formation. Le compte d'engagement citoyen permet de valoriser le bénévolat que n'importe qui peut faire pour le compte de plusieurs associations. Il faut simplement avoir cumulé 200 heures de bénévolat dans une année, dont 100 heures dans une même association. Ce qui peut aller très vite pour quelqu'un qui est bénévole dans un conseil d'administration, par exemple d'un
tout
festival.
Tout à fait, tout à fait.
Les 100 heures, voire les 200 heures, on les fait assez vite en vrai. Ce qui fait qu'on les a. Ensuite, le fonctionnement est que le bénévole se crée un compte bénévole. sur lequel il va renseigner ses heures, cumulant ses heures de réunion, de montage, de festival par exemple, de tenue de barrière sur une course, ainsi de suite. Sur l'ensemble des associations sur lesquelles il peut être, qui peut être sur plusieurs associations. La règle, c'est 200 heures en tout, dont 100 heures dans une seule association.
Une seule asso, ok. Et ça, ensuite, comment est-ce que c'est...
Ensuite, chaque association en interne doit valider ces heures-là. Donc il y a quelqu'un dans chacune des associations du bénévole qui valide le fait que voilà, Jean-Pierre, il a été bénévole dans un tel endroit pendant tant d'heures, l'association en face valide ces heures-là. Et ensuite, ça se retrouve dans le compte de personnel de formation sous un compte d'heures et donc d'argent pour faire une formation qui peut être qualifiante. Hein. Ça peut être là sur le compte personnel de formation, pour ceux qui connaissent et qui sont allés dessus, on peut faire des tonnes de choses. Hein. On peut passer le code de la route, passer un CAP, il y a plein de choses possibles.
Une fois qu'il y a tout ça, où est-ce que ça nous mène? Enfin, voilà, quelle est la conclusion un petit peu de tout ça?
Bah, avec l'humain, il n'y a pas trop de conclusion. Hein. Ça peut t'emmener ça peut t'emmener dans plein de trucs pour le coup. Ça peut être plein de choses. Enfin, du coup, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que tu vas avoir des bénévoles qui vont du coup s'investir, se continuer à s'investir, puis ça change. Enfin, t'as les nouveaux qui arrivent. C'est une vie en fait d'association. Tu crées un écosystème qui va fonctionner le moins possible en vase clos, qui va rester le plus ouvert possible aux autres. Mmh. Et à partir de ce moment-là, c'est un boulot de tous les jours, mais ça finit par payer.
Ouais, parce qu'en fait, c'est quelque chose auquel on pense que ça va se faire naturellement, où on se dit, bah voilà, les gens vont venir, ils vont communiquer, ça va se mettre en place, etc. Mais c'est quand même un aspect sur lequel il faut se pencher. En tout cas, comme je le disais, un peu prioriser, ou en tout cas réfléchir et y mettre des outils pour clarifier un petit peu aussi cette dynamique-là. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Bah, tout simplement de s'organiser en interne pour la pérennité.
C'est ça. C'est un peu comment tu pérennises un projet, c'est un peu la base de la pérennité du projet. Après, il y a tout ce qu'on vient de dire et la formation qu'on a faite, elle pose des mots sur ce genre de choses. Après, il y en a qui le font de manière très naturelle, qui ont aussi un penchant très ouvert et très facilement
très
dans ce genre de trucs, très social, et du coup, ça fonctionne. En fait, c'est comment on théorise la chose, alors qu'en réalité, ce que je disais au début, c'est que là, beaucoup de projets sont nés d'une bande de potes qui ont créé un truc. Tu te poses pas du tout ces questions-là, en fait, quand t'as une bande de potes qui crée un truc, parce que ça se fait tout seul. Quand t'es une bande de potes, c'est le après, quoi. C'est au bout de 7, 8 ans d'activité qu'il faut élargir
Quand la bande de potes est devenue très importante.
Bah,
avec des nouveaux.
Ouais, avec des nouveaux, des anciens qui s'en vont. Enfin, ce qu'arrive, une vie d'assaut classique, quoi. En fait, une équipe, parce que c'est de l'animation, ni plus ni moins. Hein. Tu aides à faire vivre cet écosystème de bénévoles. Mm-hmm. Tu le diriges. Conseil d'administration le dirige. Du coup, avec ce projet. Après, au-delà de ça, c'est comment est-ce qu'à l'intérieur, chacun y trouve son compte et comment chacun arrive à s'y épanouir, à prendre des responsabilités, à s'engager et ou à le quitter si à un moment ou à un autre, il n'y a aussi plus d'affinité. Ça arrive.
Merci beaucoup, Steven Jourdan, de nous avoir présenté cette formation et cette expertise. Si vous souhaitez avoir plus d'informations et contacter Steven, vous pouvez lui envoyer un mail à steven@unsingeenete.com. Et voilà pour le petit plat de résistance. On va passer au dessert, au pouce-café, etc., au café, tout ça, pour avec un petit tour non exhaustif des appels à projets. Dans la catégorie culture, on a le lancement de le contrat de filière musique actuelle en Pays de la Loire, avec ces trois appels à projets qui visent à soutenir les coopérations professionnelles, la diversité musicale sur les territoires et la promotion des artistes émergents. Alors les candidatures pour ce dispositif sont ouvertes à tous les types d'acteurs de la filière musicale et sont à déposer avant le 28 février 2022. Plus d'infos sur musiqueactuelle-pdl.org et pour aller encore plus loin et poser toutes vos questions et avoir plus d'informations, un webinaire sera organisé. Justement, sur la partie accompagnement associatif, attention, c'est la dernière ligne droite pour les appels à projets de la région Pays de la Loire, dont le dépôt de dossier est le 31 décembre. Alors, de quoi occuper votre réveillon? Quelques appels à projets choisis. Alors, tout d'abord, Connexion. La région propose donc de soutenir des projets portés par des associations qui effectuent des mises en relation entre les bénévoles et les associations qui sensibilisent au bénévolat et ou au monde associatif. Alors, quelques exemples de projets qui sont susceptibles d'être soutenus. Sur, par exemple, la mise en réseau interassociatif, la création de réseaux de bénévoles, l'accompagnement des associations dans la mobilisation de leurs bénévoles, etc. Autre projet, autre appel à projet, intitulé Mutualisation. Alors, cet appel à projet vise à aider les associations à se structurer entre elles, à les inciter à mutualiser leurs moyens pour optimiser leur fonctionnement. Waouh! Que de grands mots. Attention, alors seront retenus uniquement les collectifs d'associations dont l'un de ses membres effectue une action dans une commune de moins de 3000 habitants et ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Alors pareil, quelques exemples, la mise en commun d'investissements, l'achat de matériel et outillage, la réfection de locaux, la mutualisation de véhicules, d'outils informatiques, etc., etc. Autre dispositif est également support. Donc là, justement, ce sont c'est pour soutenir les associations qui accompagnent d'autres associations dans le cadre de la crise sanitaire. Quelques exemples, donc ceux qui accompagnent à la création et à la gestion de la vie associative ou qui font du soutien à l'aide à la communication et aide au numérique, etc., etc., la formation de bénévoles, tout ça. Bref, ces appels à projets sont à retrouver sur www.paysdelaloire.fr. Et pour toutes les autres associations départementales, à noter dans son agenda l'ouverture prochaine du FDVA. Alors le Fonds de développement de la vie associative, qui commence à être de plus en plus connu, mais on en reparlera dans une future émission, avec ses deux volets qui sont la volée formation des bénévoles, mais aussi le volet fonctionnement ou nouveaux projets. Alors pour tout ça, donc les calendriers viennent de sortir, l'ouverture se fera le 17 janvier de 2022 et il faudra passer par le compte asso. Pour anticiper en fait toutes ces démarches, parce qu'on en reparlera de ce qui peut rentrer dedans tout ça avec les personnes en question, n'hésitez pas à actualiser dès maintenant ou à créer votre espace sur le portail Le Compte Asso, donc le nom de l'adresse de lecompteasso.association.gouv.fr. Et si vous avez si vous cherchez encore d'autres appels à projets, n'hésitez pas à aller voir la plateforme Essor proposée par la CRES Pays de Loire, donc essor-paysdeloire.org, qui recense différents appels à projets, différents financements éventuels, choix de financement, etc. Voilà, une petite source intéressante pour se renseigner. Et voilà pour aujourd'hui. Je ne peux donc que vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et n'hésitez pas à nous faire part, si vous le souhaitez, de questions que vous vous posez sur les associations, sur le bénévolat, sur le budget, sur tout ça. Enfin voilà, n'hésitez pas. Ou des choix de recettes à traiter par le biais soit de nos réseaux sociaux L'Autre Radio ou par notre répondeur 09 70 40 59 40 ou à auditeur@l'autreradio.fr. Eh bien, il me reste juste à vous souhaiter une belle journée à tous et à la prochaine.